Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
Moi, je m'appelle Gwenaëlle de Rost, je suis sexothérapeute naturopathe et je suis spécialisée dans la reconstruction des troubles de l'intimité après justement une perte de désir et de plaisir et du coup comprendre en fait tous les troubles qui sont liés avec. Et la sexothérapie, ça englobe justement la dimension psychocorporelle, la dimension psychophysiologique, donc la chute des hormones ou le déséquilibre hormonal. Ça comprend aussi la dimension, j'aime bien aussi dire psychosexuelle, donc de comprendre comment l'anatomie du plaisir naît. Et donc, à travers mes accompagnements personnalisés, autant pour les hommes, les femmes ou le couple, je propose un espace sécurisant et bienveillant pour pouvoir justement être accompagné dans les troubles de l'intimité. Ça peut aller du vaginisme, ça peut être de la vulvodynie, de la dyspareunie, à la perte, je dirais, de le dysfonctionnement érectile. Ça peut être la peur de la pénétration, on n'en parle pas assez, mais qui construit du coup un manque d'estime de soi, une dévalorisation de soi, je dirais l'essence même de ce qui on est, et qui nous entraîne justement dans un repli de soi, donc d'aller détaboutiser, j'appelle ça un peu tous les mystères du plaisir et du désir en comprenant ces mécanismes en fait.
D'accord, tu reçois en présentiel, en ligne, les deux?
Alors moi je fais les deux et je reçois donc soit à travers donc psychologue.net ou bien ceux qui habitent dans la métropole lilloise, je les reçois aussi dans mon cabinet. Et ce que je fais aussi, c'est que j'ai des conférences, des ateliers, je mène aussi des retraites pour offrir des outils et des pratiques dans la reconstruction de la narrative de la sexualité féminine, masculine, du couple aussi, donc créer des bulles d'intimité dans le couple pour enlever un petit peu toutes ces injonctions sociétales et sociales sur la sexualité.
D'accord, merci beaucoup
Gwenaëlle. Merci.
Donc aujourd'hui, on va parler ensemble donc, de faire face à la perte du plaisir et du désir sexuel. Je vous invite donc tous à poser vos questions. Il y a le petit widget aussi. Gwenaëlle y répondra dans cette seconde partie du live. Alors déjà, Gwenaëlle, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer une perte de plaisir et de désir sexuel?
Alors, moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'en fait, c'est d'abord le plaisir se construit par le désir. C'est pas le contraire. C'est qu'il faut d'abord avoir du désir pour aller vers le plaisir. Dans la construction et des étapes de l'orgasme, il faut l'enclenchement de l'excitation. S'il n'y a pas d'enclenchement d'excitation, on ne pourra pas aller à l'aboutissement du plaisir, en sachant que le plaisir qu'on peut appeler l'orgasme ou orgasmique, c'est cette sensation d'aller vers un partage avec l'autre ou avec soi-même, si on est dans une masturbation en solo, et qui enclenche après du coup une détente du corps. En fait, l'orgasme, c'est la relaxation, la détente du corps. Pour moi, c'est pas le fait de crier ou quoi que ce soit, c'est plus d'être dans cette sensation de relaxation avec soi. Et cette phase, en fait, moi je pense que avant de parler de perte, il faut comprendre comment naît le désir et comment naît le plaisir. Et le désir, en fait, il naît quand il y a cet enclenchement de l'excitation à travers donc une stimulation cognitive qui va entraîner une alchimie, une stimulation hormonale qu'on appelle la testostérone et qui fait qu'on va passer par des phases de lubrification, qu'on va avoir des papillonnements, des envies de dire tiens, on va aller dans le partage, puis ensuite s'enclenche le plaisir, la phase du plaisir d'être dans le partage avec l'autre. Parfois, le plaisir n'est pas enclenché parce qu'on va juste aller titiller soi-même et son partenaire, puis on va pas jusqu'au bout, ce qui fait qu'on a des frustrations, on va sentir des crispations dans son corps parce qu'on a envie d'aller plus loin, mais ça n'aboutit pas. Par contre, on peut pas aller directement dans le plaisir sans cette phase d'excitation. C'est très rare de voir que tout de suite, ah bien, on va dans le plaisir s'il n'y a pas eu cette phase d'excitation, de lubrification, même si la lubrification, pareil, c'est en se mettant aussi du lubrifiant, tout ça, mais il faut avoir l'envie, il faut avoir cette suscitation d'envie. Et donc, le désir, c'est le déclencheur donc, de l'excitation. Donc, c'est désir plus plaisir, mais le plaisir sans désir n'existe pas, en fait. Il faut avoir du désir initial. Qu'est-ce qui peut expliquer la perte de désir et que du coup, qu'est-ce que ça va enclencher aussi physiquement? Ça peut être plusieurs facteurs. Il peut avoir le facteur physiologique, ça va être un trouble justement hormonal, un déséquilibre hormonal, ça peut être l'hypothyroïdie, ça peut être l'hyperthyroïdie, ça peut être aussi le diabète, ça peut être aussi des dépressions chroniques, ça peut être le stress, l'anxiété, le surménage mental, ce qu'on retrouve souvent aussi dans la routine, les responsabilités de la vie du quotidien et qu'on retrouve aussi dans le couple. Ça peut, du coup, parce que le couple, il y a plein d'injonctions aussi dans la vie du couple, dans la vie familiale, qui fait qu'on n'a plus d'espace déjà pour soi et de se retrouver avec l'autre. Et aussi, je pense qu'il y a une grande, le fait qu'il faut forcément avoir un rapport, il faut forcément entretenir ça, qui fait qu'il y a des injonctions sociales sur l'obligation d'être dans un acte sexuel. Mais parfois, d'un point de vue individuel, on est surmené soi-même, on a peut-être eu des facteurs troublants émotionnels qui peuvent être liés avec son passé, des abus physiques, psychologiques, des abus sexuels, qui fait que on a moins envie, on n'a plus envie, on n'a plus ce désir parce que justement il y a des choses qui sont à guérir à l'intérieur de soi. Le corps n'oublie rien, le corps se souvient de toutes les blessures. Et puis parfois il y a aussi ces troubles qui sont liés sur la vie du quotidien. On peut avoir eu un décès soudain, une maladie, on peut avoir eu plusieurs facteurs qui fait que on se sent pas dedans en fait. On n'est pas, il y a une préoccupation mentale et émotionnelle qui ne permet pas d'aller dans l'exploration corporelle. Et donc c'est de pouvoir être conscient que en tant qu'être humain, on a aussi des choses à gérer avec soi-même avant de pouvoir être dans le plaisir, dans le désir sexuel, donc d'être dans l'enclenchement de l'excitation. Et il y a aussi le fait de parfois les conséquences, parce que ça aussi souvent on oublie, c'est que si on prend des médicaments ou quoi que ce soit, ça inhibe en fait les hormones aussi. Donc ça peut pas enclencher ça. C'est toute une question d'alchimie entre le mental et les hormones qui vont faire que le corps fou, il va se sentir ok et ouvert pour aller dans l'exploration du plaisir. Et qu'est-ce qui peut créer la perte du plaisir? Parce qu'on peut, donc, comme je dis, avoir ce désir, puis après, on est dans l'acte sexuel, on est dans l'acte intime, en sachant qu'il n'y a pas forcément de pénétration, mais dans une sensation de partage, et qui fait que, boum, quand on est dans cette sensation de partage, au moment de l'acte sexuel, le corps se referme. Et ça peut entraîner justement le vaginisme, la dyspareunie. La dyspareunie, le vaginisme peut être une conséquence de la dyspareunie. Donc, je vais préciser ce que c'est. La dyspareunie, ça va être, par exemple, on a des douleurs pendant l'acte sexuel, qui fait que pour les prochains rapports sexuels, on peut avoir des infections urinaires, des infections, des pertes vaginales, on peut avoir cette sensation de douleur au niveau du col de l'utérus, du vagin, des frictions, des douleurs, des brûlures, qui fait que c'est pas agréable, qui fait que pour le prochain rapport sexuel, là où d'habitude on avait l'enclenchement du désir qui se faisait, on va plus avoir envie, parce qu'on va se dire, oh là 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 là. Ça veut dire que là, on va avoir mal pour le prochain rapport. Non, non, non. Et du coup, ça va couper le désir et couper, du coup, le plaisir. Mais du coup, ce qui est important, c'est que lors de l'acte sexuel où il y a justement cette envie de partage qui est présente, ce désir, il peut y arriver ça. Il peut arriver qu'à un moment donné, en fonction de ce qui se passe dans son corps, le corps se ferme au plaisir. Parce que chez la femme, c'est 8000 terminaisons nerveuses au niveau du sexe. Chez l'homme, c'est 4000. Et donc, si c'est des terminaisons nerveuses, c'est-à-dire qu'elles sont connectées au cerveau. Et si c'est connecté au cerveau, c'est en fonction de comment je vais émotionnellement, ma disponibilité émotionnelle, ma disponibilité mentale qui fait que je suis dans la disponibilité physique. D'accord. Et truc qu'on ne parle pas assez, c'est que justement parfois, on peut être dans une notion de plaisir qui fait du bien, on est bien avec son partenaire ou sa partenaire, et qu'au moment de l'acte sexuel, comme le corps il va libérer la sérotonine après la dopamine, donc tous les hormones justement du relâchement du corps. Vous m'entendez?
Oui, c'est bon. La vidéo était suspendue un instant, mais ça y est, je te revois. Ça a été coupé.
Ok. Et donc, je disais, il y a un truc aussi qu'on ne parle pas assez, c'est qu'il arrive parfois que quand le corps se sent bien, dans le plaisir avec l'autre ou avec soi-même, ça va libérer justement les hormones dites du bonheur, de la relaxation, la sérotonine, la dopamine, et que le corps, parce qu'il se sent bien dans cette immobilité, dans cette détente, il va en fait pouvoir aller travailler les mémoires cellulaires. Et donc, on peut avoir d'un coup un surgissement d'anciennes émotions, d'émotions de colère, de culpabilité, de honte, de dégoût qui peut surgir pendant l'acte sexuel et qu'on ne comprend pas et qui fait que d'un coup, boum, ça coupe le plaisir et qui va être en fait navigué en fonction de ce qu'il se vit pendant l'acte sexuel. Donc, il y a vraiment une relation avant tout avec le cerveau. Moi, je dis toujours que le premier organe sexuel, c'est le cerveau, c'est le stimulateur.
Merci Wenaël. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi certaines personnes qui ne s'intéressent pas, ou en tout cas plus, aux relations sexuelles, et on le voit de plus en plus apparemment. Ce désintérêt pour le sexe, comment il s'explique?
Là, pareil, il y a plusieurs facteurs, toujours psycho-émotionnels, psycho-physiologiques. Le premier, je pense que c'est les injonctions sociétales. Il faut forcément qu'il y ait une fréquence sexuelle pour se dire qu'on est bien et sainement sain dans la sexualité. Mais que parfois, eh bien, il y a des étapes de la vie, des transitions du corps, qu'il y a plein de choses qui se passent dans la vie qu'on ne peut pas être dedans. On ne peut pas être partout, en fait, à la fois. Par contre, ce qui est important, c'est de toujours créer le lien corporel. Le corps aime la douceur, le corps aime le toucher, et que des fois, quand on sent cette crispation de toucher, c'est parce qu'il y a un vécu, en fait. Il y a un vécu dans le passé où il y a des abus peut-être sexuels, il y a un vécu peut-être de traumas médicaux, il y a un vécu, le corps, il a besoin d'être compris, d'être entendu, d'être soutenu, d'être accompagné. Et parfois, cette perte d'appétence dans le désir et dans le plaisir peut surgir parce que justement, on sent une pression sociale. Ce que moi je remarque aussi, c'est qu'il y a plein maintenant de sites qui disent « Ah, vivez la sexualité comme ça, faites comme ça », mais peut-être que du coup, ça nous crée en soi un déséquilibre dans la sécurité émotionnelle et physique en lien avec son propre vécu. Et ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, quand c'est dans la relation du couple, c'est que en fait, on n'est pas dans le même, je dirais, rythme du langage de l'amour et du langage érotique. Je vais donner un exemple concret. Il y a 5 empreintes érotiques. Le corps, lui, il a un fonctionnement dans le désir et l'excitation. Si c'est un langage sensuel, un langage sensoriel, un langage sexuel, un langage kinky, un peu BDSM doux, où on va aller faire des petits trucs coquins, ou un petit peu un langage énergétique, donc qui va aussi rejoindre un peu tout le truc. Et c'est qu'en fonction des personnes, parce que chaque corps est unique, pour l'enclenchement de du désir et après aller vers le plaisir, eh bien peut-être que le partenaire, au moment donné, il a besoin d'un langage sensuel et sensoriel avant d'aller, et que l'autre partenaire, lui, il est chaud comme une braise, et puis il va dire « Allez hop, on y va tout de suite », et que du coup, quand ça va faire l'interaction entre les deux, il y a une incompréhension. D'accord. Et que du coup, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on appelle le langage érotique. Il y a différents types de langage érotique, et qu'il y a aussi la routine qui tue aussi. Il y a plein de facteurs qui peuvent être inconscients, conscients, mais dans le couple, en tout cas, la première chose, c'est le manque de rythme, et être au diapason ensemble, qui fait qu'après, on n'a plus envie. Parce que moi, j'entends souvent des clientes qui me disent « Ah là là, mon mari, il est venu tout de suite, boum, il m'a touché les seins, il a cru que c'était bouffe, là, c'est ça !» Alors qu'elle a peut-être besoin d'un langage sensuel, verbal, cognitif, ouais, avant et tout ça. Et donc, il y a beaucoup aussi ça. Et après, il y a le facteur, effectivement, des traumas qu'on vit, soit dans le corps, en fait. Et qu'il faut de l'espace pour ça. Il faut beaucoup de l'espace.
D'accord. Merci Gwenaëlle, du coup, pour cette réponse. Et en couple, que faire si mon partenaire, il n'a plus de libido?
La patience, mes amis. Alors, moi, ce que j'aime à rappeler, c'est qu'on n'est pas les thérapeutes hein, de son compagnon ou de sa compagne. Il y a des professionnels pour ça. Et c'est important, c'est pas notre rôle, en fait, quand on est dans une relation. Notre rôle, c'est de pouvoir soutenir la démarche, c'est de pouvoir accompagner la démarche, de pouvoir apporter ce que j'appelle cette bulle émotionnelle de langage, de pouvoir poser les choses, de pouvoir communiquer et de pouvoir proposer justement au mieux son aide en fait à travers cette communication et de rassurer la personne, de dire que bah il y a pas d'injonction, que c'est ok, que on peut comprendre que sur un moment ça va pas bien, d'apporter cette sécurité, de dire je te vois, je te comprends, je t'entends, je te soutiens. Et vraiment pas mettre de pression. C'est de la patience, c'est beaucoup de patience. Et c'est vraiment, je pense qu'avant même de se dire qu'il faut forcément un acte sexuel, c'est de comprendre que bah, l'intimité, c'est pas que la sexualité. L'intimité, c'est les émotions. La sexualité vient quand il y a une sécurité émotionnelle.
D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier, on se dit la sexualité égale acte, pénétration, non, il y a les caresses, il y a tout ça.
Oui, et puis même le langage, il y a, en fait, dans une histoire de couple, si on peut parler même de, pas forcément en conjugal, hein, mais quand on a une interaction physique avec, et intime avec une personne, qu'elle soit émotionnelle ou physique, on a des phases, il y a le langage de l'amour parfois qui prend plus d'espace et le langage érotique, il y a des phases. Et c'est de savoir en fait jongler. Et c'est ça qui fait qu'on surfe sur la vague d'une relation qui dure plus longtemps. C'est de pouvoir apporter cet espace d'écoute et de compréhension sur ce que la personne traverse. Les grandes difficultés d'un couple relationnel, c'est en fait de laisser la place à la non-communication de tous ces perturbateurs que sont peut-être les traumas ou les bouleversements de vie à l'intérieur de soi, en fait. Donc, c'est important d'apporter cet espace de ce que j'appelle la bulle d'intimité, les préliminaires émotionnels.
Merci. De toute façon, on en reparlera dans la seconde partie avec les questions quand bien même le vaginisme, je pense qu'on y reviendra également. Donc n'hésitez pas si vous avez vos questions, je vois qu'il y a une petite boîte à questions qui s'affole. Alors Gonaëlle, aussi une dernière question, quels sont tes conseils pour retrouver le désir sexuel?
Toujours bonne question. Bah, avec tout ce qui a été expliqué, avec tous ces facteurs justement, de se rendre compte que bah, en fait c'est de la patience avec soi. Et que c'est ok de ne pas avoir de désir sexuel, c'est ok, il n'y a pas cette injonction, il n'y a pas cette obligation. C'est de comprendre en fait les freins et les accélérateurs du désir. J'aime pas le mot il faut. C'est de pouvoir s'accorder cet espace en soi, de se dire bah aujourd'hui en fait bah j'ai quelque chose qui crée un frein vers l'autre ou vers moi-même, vers la connexion avec mon corps. Est-ce que je peux m'offrir cet espace de compréhension et d'écoute avec moi-même en fait? Et de vraiment se défocaliser de toutes ces injonctions sociétales et sociales sur ce que doit être une sexualité épanouie. Une sexualité, en mon sens, épanouie, c'est quand il y a cet amour pour soi. Je dis toujours, apprenez à faire l'amour avec vous-même. Et quand je dis à l'amour avec soi-même, c'est dans son intimité la plus pure, en fait. De pouvoir se dire que bah, j'y arrive pas, moi, ça peut m'arriver dans des pratiques que je m'offre à moi-même, de pas aller jusqu'à la pénétration et tout ça, la masturbation avec moi-même. Non, c'est de m'apporter juste déjà ce moment de compréhension sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, de mesurer mon thermomètre intérieur, de mesurer ma disponibilité émotionnelle intérieure, en fait. Et donc, c'est après, et je dis toujours, c'est que en prenant le temps de reconstruire, moi, je dis toujours, c'est de reconstruire ce pont entre la tête, le cœur et le sexe, qu'en fait, on redevient, je dirais, entier avec soi-même, intégratif, on devient complet, en fait. Et que cette intimité, avant d'être créée avec l'autre, elle doit être créée avec soi, dans cet amour de compréhension de ce qui se véhicule à l'intérieur de soi.
Bien sûr. Merci
Gwenaëlle. Avec plaisir.
On va regarder maintenant les questions qui ont été posées. Alors, je pense qu'on répondra à peu près à 4-5 questions. Alors, on commence par Magique Hélène qui nous dit « Depuis que je suis maman, même si j'ai du désir, je ne ressens plus de plaisir. Pourquoi selon vous ?»
Alors là, il y a une grande transition hein, de la vie de couple à la maternité. Et c'est aussi peut-être la transition de la transformation du corps. Donc, c'est plutôt l'image vis-à-vis de soi-même. Et peut-être qu'un quand on vient d'avoir un enfant, on alloue beaucoup de temps aussi à l'enfant et peu d'espace à soi. Et je pense que c'est aussi, ça peut être un des facteurs. Hein. Il y a aussi un facteur hormonal. Hein. On revient dans une balance hormonale où il y a eu bah, les hormones de grossesse. Puis d'un coup, on revient à soi dans son corps de femme. Et en sachant qu'on n'est plus la femme d'avant, mais de comprendre quelle femme qu'on est aujourd'hui, donc c'est de reconstruire en fait sa narrative sexuelle avec soi et sa narrative de sa féminité à soi avec un nouvel élément, c'est tiens aujourd'hui j'ai aussi je ne sais pas si c'est casquette le bon mot, mais la casquette de maman à travers tout ça en fait. Donc je pense qu'il y a une réexploration avec soi-même et sa définition de soi par rapport à son image de son corps et de sa féminité et sa sexualité à travers.
Merci. Alors, on va regarder une autre question. Alors, comment se fait-il que des fois, j'ai énormément envie, mais sur le moment, je ne ressens rien?
Alors, ça, c'est... curieusement, des fois, c'est le cerveau qui va enclencher cette suscitation d'envie et peut-être que le corps n'est pas encore OK, il n'est pas disponible. Et je dis toujours que la première chose à faire, c'est de vivre son consentement intérieur. Et parfois, on a des envies de sexualité parce qu'en fait, on a un emmagasinement de stress et qu'on va aller chercher la sexualité pour aller libérer le stress. Ça peut être un exemple. Je ne dis pas que c'est forcément le cas de cette question pour cette personne. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, donc désolée. Mais il faut savoir que effectivement, en fait, le cerveau va dire « Ah, j'ai envie de faire l'amour, allez, vas-y. » Et parce que j'ai du stress, parce que j'ai un surmenage émotionnel ou quoi que ce soit. Et le moyen d'aller chercher, c'est d'activer le plaisir. Sauf qu'à suractiver le plaisir, on en perd le sens du plaisir et qu'on ne ressent plus le plaisir. Et donc, il y a en fait une forme de non-consentement intérieur parce qu'on utilise la sexualité à mauvais escient parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi.
D'accord, super. Merci pour cette explication, Gonaëlle. Des fois, il y a des choses qui deviennent très claires et je pense que ça aide aussi beaucoup de personnes. On a Rad qui nous dit, alors hop, est-ce que perdre le désir sexuel est synonyme de la fin d'une relation ?
Non. Non, au contraire, c'est la création peut-être possiblement d'une nouvelle relation beaucoup plus intime et beaucoup plus vulnérable. Au contraire, je trouve que il faut pas avoir peur des troubles dans un couple et dans une relation, dans l'intimité. Au contraire, ça peut poser les jalons d'une nouvelle relation parce que ça veut dire que s'il y a une peur de désir, comme on l'a précité avant, c'est que il y a des déclencheurs. Il y a quelque chose qui fait que l'excitation n'arrive plus. Qui peuvent être des troubles physiques, des troubles physiologiques, des troubles émotionnels, des traumas, des transitions de vie qui sont difficiles et que ça permet peut-être d'ouvrir la porte de la vulnérabilité et donc d'une intimité beaucoup plus profonde.
D'accord. Super.
Merci.
Novita qui nous dit « Comment remettre en marche un corps qui n'a plus envie ni désir, surtout quand on a des pensées en arborescence ?»
Le jeu du mental qui vient quand on fait sa liste de courses, quand on fait l'amour ou quoi que ce soit. C'est de s'inscrire dans le moment présent. Donc ça se travaille à travers des pratiques en fait, de psychosensorielles pour pouvoir se remettre dans le moment présent et du coup voir qu'on est en sécurité en étant dans le moment présent et de pouvoir ce qu'on appelle le fameux lâcher prise en fait. Lâcher prise sur le quotidien. Mais c'est très intéressant cette question, c'est aussi peut-être en arborescence de pensée, de voir est-ce que je suis capable, prête à accepter de recevoir du plaisir. Parce qu'il y a aussi cette notion-là, quand on reçoit du plaisir, on est plus vulnérable. Donc il y a toujours cette relation de vulnérabilité. Donc c'est est-ce que je me mets pas dans le je suis ok au début, j'ai envie de faire l'amour, je suis dans le désir, mais est-ce que je suis capable de recevoir le plaisir? Et au lieu de revenir dans le mental, rester dans le contact du corps. Et le corps, il ressent plein de choses et c'est de savoir est-ce que je peux recevoir toutes ces sensations dans mon corps. Et comment? Parce qu'il y a beaucoup de moi j'ai des clients qui me disent qu'est-ce que je fais avec tout ce qui se passe dans mon corps, et ça crée des tensions justement encore plus neuromusculaires qui peuvent entraîner le vaginisme et tout ça. Et je leur dis la voix permet d'accompagner le plaisir. Il y a plein de techniques qui font et que du coup ça fait véhiculer justement cette énergie sexuelle dans tout le corps et qui fait qu'après on est vraiment dans un espace de détente et de relaxation.
Merci pour vos questions aussi. Merci Agonelle pour tes réponses et merci aussi pour vos questions. Il y en a beaucoup. Alors, on va en faire une autre. Alors, la renarde qui nous dit « Cela fait quelques semaines que j'ai des envies, mais mon corps ne suit pas. Je suis enceinte, donc je ne sais pas si c'est un facteur déterminant. »
Ça peut l'être. Parce que pareil, on est dans une nouvelle transition de vie, le corps change, donc déjà il change hormonalement parlant. Et ça peut être aussi toute cette empreinte peut-être sociétale qu'on a qu'une femme ne peut pas vivre une sexualité. Et c'est des facteurs inconscients, c'est des blocages inconscients qui fait que peut-être on se bloque dans jusqu'à l'épanouissement du plaisir. Des fois, j'entends « Ah, j'ai peur de faire mal au bébé ». Il y a toujours ce truc-là où on se dit « On peut faire mal au bébé ». Et donc on peut... Hormonalement, ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, quand on est enceinte, on a des phases où on a envie de faire l'amour. Et effectivement, le corps, peut-être qu'il est en décalage. C'est ce qu'on appelle, je vais oublier le mot, mais c'est un décalage entre le mental et le corps. Et donc, de se rassurer, c'est peut-être aller chercher les mécanismes inconscients qui sont au travers de... Est-ce qu'il y a une incompatibilité d'être femme et mère, en fait? Et femme dans ce plaisir un peu sauvage, sexuel, fougueux, sexuel, et être maman parce qu'il y a des injonctions sociétales justement sur le rôle de la femme quand elle est mère.
D'accord. C'est bien de le rappeler, en effet. Mmh. Alors, on va encore regarder une ou deux questions. Quel est le lien entre le désir et la perte de motivation et manque de volonté, s'il vous plaît?
Merci mesdames. Alors, c'est sûr que je dis toujours la sexualité, l'intimité, c'est un art à construire tous les jours. Ce qui est important, c'est de garder le lien. C'est sûr que la vie, en fait, parfois, on est plus emmené par la routine, le surménage du quotidien, qui fait que quand on rentre, on est fatigué. On a envie, mais le corps, il est fatigué. Et il est important de se demander, en fait, qu'est-ce qui est le plus important. Alors, vous allez me dire, oui, mais Gwen, il faut vivre, il faut manger, ceci. Certes, c'est vrai, mais l'échange intime, c'est nourrissant. Et en fait, c'est d'allouer du temps pour ça. Et ça, c'est une grande, grande question, justement, dans les couples, où ils se disent, ils sont perdus par les obligations familiales, les obligations de la vie extérieure, qui fait qu'il n'y a plus d'espace pour la vie intérieure. Et c'est important de se donner, s'allouer de l'espace pour la vie intérieure, parce que oh, sinon, bah, forcément, ça fait une regaine de fatigue. Et en sachant qu'en plus, que quand on stimule sa sexualité et son intimité sans forcer, sans injonction, ça entraîne justement une ressource du corps. Donc, il va se réénergiser, en fait. Et c'est ça qui est chouette quand on le fait avec pleine conscience et au-delà de la sexualité mécanisée, tout ça. C'est ça qui est beau, en fait.
Merci, merci Gwen. Alors, il y avait une... j'en vais faire une dernière question. Je vois que c'était Lapin Rose. Elle me semble intéressante, on ne l'a pas vue encore, bien que tu as parlé de... des choses qui ont impacté aussi. Alors, la personne nous dit « Mon mari est en dépression. J'ai l'impression qu'il a besoin de sexe plus par nécessité que par envie. Ça bloque mon propre désir. Est-ce que tu aurais des conseils, du coup, Gwenaëlle ?»
Eh bien, ça, c'est parce qu'il faut faire de la décharge, en fait, émotionnelle. C'est se servir à mauvais escient de la sexualité. C'est que beaucoup de personnes, même autant femmes que hommes, hein, mais on va avoir tendance même des fois à se masturber soi-même pour aller faire une décharge émotionnelle. Et ça s'accompagne, en fait. Et parce que ça peut briser, justement, le circuit entre le sexe et la tête, parce que le sexe, enfin, moi je l'ai vécu, il a l'impression d'être violé en fait quelque part, de mais attends, tu m'utilises à mauvais escient là. Et en fait, c'est de pouvoir procéder à une décharge mentale et émotionnelle pour comprendre que la sexualité, elle est pas au service de la décharge mentale et émotionnelle. La sexualité, elle est là justement pour apporter la détente, la relaxation, le plaisir, et qu'elle peut accompagner des émotions. Parce que quand on comprend justement comment les émotions fonctionnent, on peut accompagner une émotion même dans un acte sexuel, qui fait qu'on peut, ce qu'on appelle en anglais, faire du désarmement, du de-armoring, re-soothing, c'est-à-dire qu'on va désarmer l'émotion et la ressourcer en même temps à travers le plaisir. Et c'est ça qui est beau, en fait.
C'est fou parce que même ici, enfin, finalement, on ressent que cette personne, cette femme ressent cette énergie négative de la part de son partenaire, quelque part, vraiment, c'est une question aussi d'énergie.
Et on absorbe les énergies, hein. On absorbe les énergies de ses compagnons ou de ses compagnes quand il y a de l'énervement, quand il y a des frustrations. Par le lien du sexe, c'est des énergies, hein, c'est exactement ça. Alors, c'est invisible, c'est pas palpable, c'est pas tangible, mais pourtant, on peut ressentir dans une pièce, quand il y a quelqu'un qui va pas bien, on ressent. On peut ressentir, c'est pareil dans la sexualité. Et que du coup, on se dit, mais est-ce que vraiment tu le fais parce que tu as envie de moi, tu me désires, ou c'est parce que tu veux décharger? Et c'est là que ça peut créer du coup encore plus une séparation, parce qu'il n'y a plus cette notion de respect dans l'intimité, en fait.
C'est vrai, c'est vrai. Merci Gwenaëlle d'avoir répondu à toutes ces questions.
Avec plaisir.
Comme toujours, en fin de live, je te demande si jamais tu as une petite phrase à nous dire, un message à faire passer, soit le désir et le plaisir sexuel, soit tout simplement sur ton cabinet, ta manière de faire.
Moi, j'aime bien rappeler que ne restez pas seul quand vous avez un problème sur la sexualité. Il y a des professionnels qui existent, il y a des solutions qui existent. Moi, j'ai fait partie des personnes qui vivaient des troubles de l'intimité. C'est grâce à ça que j'ai guéri, que je suis plus épanouie. Et donc, il y a vraiment des solutions qui existent, et que la sexualité n'est ni un acquis et ni inné. C'est quelque chose qui s'apprend et s'apprivoise dans le temps. Et donc, vraiment, de vous rassurer sur ça, de vous rassurer sur votre potentiel, en fait, à être dans le partage, à recevoir le plaisir. C'est juste de recomprendre les mécanismes. Donc, most welcome, si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, avec plaisir. En fait.
Super, merci. Merci beaucoup, Gwenaëlle, pour ta présence aujourd'hui et pour avoir répondu à toutes nos questions.
Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir reçu.
Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.